Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir. Romain Ozoui.
Jeudi 2 janvier. Bonsoir à tous. L'année est lancée. Elle est bien lancée sur RFI. L'info également. Vous êtes au bon endroit. C'est parti pour la session soirée. Voici le programme des 3 heures à venir. Dans 10 minutes, le décryptage consacré à l'autre homme fort de l'Amérique, Elon Musk, le plus riche de la planète, soutien de Donald Trump pendant la campagne présidentielle et désormais aux avant-postes de la politique américaine. Elon Musk, le vertige de la toute-puissance, Véronique Rigolet tentera de répondre à cette question. Du côté du débat du jour, nous continuons à évoquer les grands enjeux de 2025. Et ce soir, le climat. Alors que 2024 a été l'année la plus chaude sur la planète, de quoi augure 2025? Est-ce que 2025 sera l'année du pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre, comme certains experts l'affirment? Qu'est-ce que cela signifierait-il? Élément de réponse dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir, Margot Ratézic. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition, à la une, la Guinée. Le procès de l'opposant Aliou Ba, poursuivi pour offense et diffamation envers le chef de l'État. Enfin, 19h10 TU, votre session reportage sur RFI. Accent d'Europe sera ce soir en Ukraine, à la rencontre d'un neurochirurgien qui se bat pour soigner les blessures de guerre les plus lourdes. Et puis le grand reportage ce soir à Cuba, où les artistes se retrouve dans une situation critique. Voilà pour le programme, mais à 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et pour débuter, l'enquête qui se poursuit aux États-Unis, après l'attentat à la Nouvelle-Orléans, le FBI vient de tenir une conférence de presse.
Première information de l'agence américaine, l'auteur de l'attaque avait proclamé dans plusieurs vidéos son soutien au groupe État islamique et déclaré le rejoindre. Cet ancien militaire américain a tué 15 personnes, fauché par son pick-up lancé à toute vitesse, une trentaine d'autres ont été blessés. Toujours selon le FBI, il avait aussi posé 2 bombes artisanales et il a agi seul. Muriel Aveline est guide touristique à la Nouvelle-Orléans. Comme le reste des habitants, elle est sous le choc et s'inquiète aussi des conséquences pour la ville qui attire de nombreux touristes, notamment pour la finale du Super Bowl début février et le carnaval en mars.
Personne ne s'attendait à ça. Il y a des problèmes, comme il y en a partout. Mais personne ne s'attendait à un scénario du genre Nice, ce fameux 14 juillet, parce que ça a l'air d'être le même genre de scénario et tout le monde est sous le choc là et n'en revient pas, quoi. On n'a pas besoin de ça parce que la ville vit beaucoup du tourisme et des congrès, etc. Donc, ça donne une mauvaise image dans le reste des États-Unis et un peu dans le reste du monde. Dans la mentalité des touristes, notamment américains, c'est une des villes comme Las Vegas où on vient faire la fête, et notamment dans la rue Bourbon. Les gens viennent ici pour s'amuser, oui, pour passer du bon temps. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça. Alors que la criminalité a baissé à la Nouvelle-Orléans par rapport à l'année dernière, de 26%, les délits de 26% en ville, et les meurtres et homicides de 35%.
Muriel Aveline, guide touristique à la Nouvelle-Orléans avec Daniel Vallot. À ce stade, le FBI affirme par ailleurs qu'aucun lien n'a été établi entre cet attentat et l'incident de Las Vegas où un véhicule Tesla a explosé devant un hôtel Trump. En Syrie, les forces de sécurité ont lancé une opération de ratissage à Homs, dans les quartiers alaouites, la minorité de Bachar el-Assad. Selon les autorités, des criminels de guerre s'y cachent. Des centres de régularisation ont été ouverts en Syrie pour tenter d'intégrer les anciens membres du régime Assad. Sur le plan international, les nouveaux dirigeants syriens ont réservé leur premier déplacement à l'étranger à l'Arabie Saoudite. Plusieurs ministres, dont le chef de la diplomatie, sont à Riyad. La semaine dernière, le nouvel homme fort de Damas, Abu Mohamed al-Joulani, avait déclaré que l'Arabie Saoudite pourrait tirer partie de grandes opportunités d'investissement en Syrie, un pays à reconstruire après près de 14 ans de guerre. Nicolas Falaise.
Le tout nouveau chef de la diplomatie syrienne parle d'un pays frère à propos de l'Arabie Saoudite. Richissime monarchie pétrolière, principale puissance du monde arabe sunnite, le royaume saoudien est un interlocuteur incontournable pour les nouveaux dirigeants syriens. Un géant régional dont la position a évolué ces dernières années vis-à-vis de la Syrie. Riyad a d'abord soutenu la rébellion syrienne avant de se résoudre en 2023 à rétablir les liens avec Bachar el-Assad. On voit bien aujourd'hui lui l'intérêt de chacun à bâtir une relation solide, intérêt pour la nouvelle Syrie en quête de légitimité comme de respectabilité et dont les besoins sont immenses en termes de reconstruction et d'investissement. Intérêt saoudien également, il y a quelques semaines encore, la Syrie s'inscrivait dans le camp des alliés de l'Iran qui reste le grand rival régional de l'Arabie saoudite, même si la relation s'est apaisée. Aujourd'hui, l'influence de Riyad peut s'étendre jusqu'à Damas. C'est l'une des facettes de la recomposition régionale qui fait suite à la chute du régime de Bachar el-Assad.
L'ONU demande officiellement l'annulation de la suspension d'Al Jazeera. L'autorité palestinienne a pris la décision de suspendre hier sa diffusion en Cisjordanie. Raison invoquée, la chaîne qatari serait responsable d'incitation à la sédition et d'ingérence dans les affaires palestiniennes. Al Jazeera proteste et estime qu'elle paye sa couverture des violents affrontements qui opposent depuis plusieurs semaines le Hamas et le djihad islamique aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne à Jenin. En Corée du Sud, le face-à-face est tendu devant la résidence du président déchu. Ses opposants exigent sa détention immédiate. En face, ses partisans appellent à le protéger face à la menace de son arrestation. Yoon Suk-yeol refuse de se rendre malgré le mandat d'arrêt contre lui. Après sa tentative d'imposer la loi martiale début décembre, il a promis de se battre jusqu'au bout à ses fidèles soutiens, souvent complotistes, ultra-conservateurs, qu'il dit suivre en direct sur YouTube des vidéos sur lesquelles s'est penché Nicolas Roca.
La Corée du Nord et des forces obscures menacent l'État sud-coréen et sont à l'origine de la chute du président. Un discours complotiste véhiculé par des youtubeurs suivis par des millions de sud-coréens et prêts à défendre jusqu'au bout Yoon Suk-yeol.
Ce pays est en train d'être volé par la Chine. Nos droits de vote se font voler par la Chine. Et maintenant, ils vont nous enlever notre président.
Avec ses 1,6 million d'abonnés sur YouTube, Shin-hye-sik est l'une des stars des ultra-conservateurs.
Pourquoi il y a des Chinois durant les rassemblements pour demander la destitution du président? Le Parti démocrate et les milieux politiques essaient de trouver comment donner toujours plus aux Chinois.
Ces groupes, soutenus par les églises évangéliques, portent un discours viscéralement anticommuniste, antiféministe, contre les minorités sexuelles et les étrangers. Des thèmes repris par Yoon Suk-yeol. Hier, son avocat, Suk Dong-yeon, est même venu haranguer la foule en son nom.
Il m'a demandé de saluer comme il se doit tous ceux d'entre vous qui essayent de protéger le président.
Un jusqu'au boutisme qui séduit les ultra-conservateurs, mais pas l'opinion publique. Selon un sondage du Chungang Ilbo, un grand quotidien de centre-droit, plus de deux tiers des Sud-Coréens estiment que la déclaration de la loi martiale par le président constitue un acte de rébellion.
Nicolas Roca du Service international. Aux États-Unis, pour résoudre un désastre écologique, des scientifiques misent tout sur des loutres. Le long de la côte ouest, une espèce invasive fait des ravages. Des crabes verts d'impressionnantes colonies originaires d'Europe qui menacent l'ensemble de l'écosystème. Depuis des décennies, les autorités américaines tentent de venir à bout de ces crustacés en vain. Mais les loutres de mer en raffolent et c'est peut-être le début de la fin pour les crabes. Les explications de Stéphanie Schuller.
Si Elkhorn's Slough est bien moins envahi par les crabes verts que le reste de la côte pacifique américaine, c'est parce que cette réserve naturelle en Californie abrite un groupe de 120 loutres de mer. Ces mammifères se nourrissent de coquillages et de crustacés, et le crabe vert fait partie de leur repas préféré. Le groupe en avale jusqu'à 120 000 par an. C'est le décompte d'un groupe de scientifiques internationaux qui a constaté des bénéfices étonnants sur l'écosystème de la réserve. Avec moins de crabes verts dans l'eau, une espèce d'escargot de mer, qui est leur proie principale, peut se développer normalement. Ces escargots mangent à leur tour les algues qui empêchaient la lumière du soleil d'atteindre les herbiers marins. Désormais, ces prairies solo se portent mieux et servent de nouveau de refuge aux poissons juvéniles et de nourriture aux oiseaux migrateurs. Chassés pour leur fourrure au XVIIIe et XIXe siècle, les loutres de mer ont failli disparaître. Il n'existe plus que 3000 individus en Californie. Mais depuis la publication de cette étude, les autorités envisagent la réintroduction des loutres de mer sur toute la côte ouest américaine.
Un mot du vent des globes pour terminer ce journal. Johan Richaume est toujours deuxième, mais il talonne désormais Charlie Dalin. L'avance du leader de la course autour du monde en solitaire a fondu pendant la nuit. Le duel se poursuit au large du Brésil. Loin derrière, le peloton navigue vers le Cap Horn. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de RFI.